去年夺冠了。Malachie est la dernière, juste avant Matthieu. Vous savez où c'est Matthieu, premier livre du Nouveau Testament. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, Malachie chapitre 2, on ne va pas lire en entier le chapitre, mais Dieu exprime sa désapprobation de certaines mentalités qui, au fur et à mesure, prennent le devant dans leur manière de penser. Et Dieu, pour utiliser les termes très humains, est fatigué de ça. Regardez verset 17. Attendez, j'ai perdu le chapitre 17, par exemple, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Est-ce qu'il y a des gens qui vous fatiguent par leurs paroles parfois? Est-ce possible que nous pouvons fatiguer l'Éternel par nos paroles? Il est dit, le prophète Malachie dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et puis vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Et puis il dit, mais c'est ceci, c'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Où est le Dieu de la justice? Et j'ai posé la question, où était le Dieu de justice en 2012? Mais pas de la même manière que eux y posaient. Ils posaient d'une meilleure manière qui pas simplement fatiguait l'Éternel par la répétition, la répétition, la répétition, mais qui attristait la divinité de la justice de Dieu parce qu'ils avaient entièrement détourné la justice. Et ils disent, ce n'est pas juste. Combien de fois avez-vous entendu cela? Un enfant meurt. Ce n'est pas juste, on dit. Il y a 15 jours aux États-Unis, 20 enfants étaient tués dans leur salle de classe. Et beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes. Et plusieurs personnes, sans doute, qui posaient la question, où est Dieu dans les tragédies comme cela? C'est facile de poser cette question. Dans cette église, nous avons traité cette question assez souvent. Et nous connaissons plus ou moins la réponse théorique, la réponse théologique, la réponse correcte et juste. Mais par rapport à notre expérience, il y a quelque chose en nous qui dit pourquoi. Ce n'est pas une question positive, ce n'est pas juste cherchant l'information, c'est plutôt un pourquoi de accusation, n'est-ce pas? Je le fais, vous l'avez fait sans doute. Et c'est ça quand même qui a causé la fatigue, pour utiliser un terme entièrement humaine, qui disait, vous voyez les phrases avant, vous prenez plaisir en des choses que Dieu ne prend plus plaisir du tout, et vous pensez que vous vivez dans la justice, et Dieu devrait vous bénir. Dieu existe pour votre bénédiction. Dieu existe pour vous dépanner. Et si Dieu n'est pas là pour vous dépanner dans votre moment de besoin ressenti, et Dieu s'est trompé, Dieu n'a pas bien joué. Pensez dans les sports, il y a certaines personnes, je ne connais pas très bien le foot. Je connais plus le foot américain que le foot européen. Dans le foot américain, il y a certaines personnes, leur seule tâche, c'est de faire des trous dans lesquels le porteur du ballon peut plonger. Il faut préparer un chemin pour qu'il puisse gagner des mètres. Ils n'existent que pour ça. Ils sont payés des millions dans le foot professionnel, purement pour garder, pour ouvrir et pour permettre que la personne peut gagner 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, etc. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu existe pour ouvrir le chemin, pour que nous puissions faire marcher nos projets. C'est nous le capitaine de l'équipe. C'est Dieu qui travaille pour nous. C'est nous qui projetons ceci et cela. Et c'est Dieu qui doit être là pour que quand j'arrive à cet obstacle, il existe pour enlever l'obstacle, pour que je puisse avancer. Théoriquement, nous savons que ça ne va pas. Mais pratiquement, nous jouissons de cette manière. Dieu est un joueur de mon équipe. Il faut qu'il prenne sa position. Il faut que j'appelle ce qui va se faire prochainement. Et il faut qu'il soit là au bon moment pour débarrasser le chemin, pour que je puisse entrer. Et donc, la moralité avait été longtemps écartée. Leur volonté était ce qui comptait. Et si Dieu n'était pas là au bon moment, pourquoi Dieu a permis cela? Je vais poser cette question pour 2012. Où était le Dieu de justice en 2012? Et je voudrais poser cette question de cette manière. Comment Dieu pourrait-il être un Dieu de justice? Comment Dieu pourrait-il être un Dieu de justice tout en permettant tant de bien de passer aux personnes qui déshonorent Dieu et qui refusent de croire en lui? Comment Dieu peut-il être un Dieu de justice en permettant que des gens reçoivent des bonnes choses qu'il n'admet même pas son existence? Ou si oui, c'est tout simplement de la bouche. Dieu existe et puis, mais il n'a aucune rien à faire avec ma vie. Quand on rejette la seigneurie de son fils, comment est-ce que le Dieu de justice peut continuer de ne pas exercer sa justice malgré le mérite des gens? Ça, c'est aussi une question qui pose des pécheurs, des non-chrétiens. Si Dieu existe, et si Dieu est juste, pourquoi il permet que cette personne peut faire des choses si méchantes? Et ils ne sont pas punis, semble-t-il. Donc, je pose cette question. Comment Dieu peut-il être juste et faire beaucoup de bien à nous qui sommes injustes? Où était le Dieu de justice en 2012? Quand, écoutez maintenant, quelques faits, quand des millions d'avions ont atterri en toute sécurité en France, sans accident. Où était le Dieu de justice en 2002? Quand le monde tournait autour du soleil avec autant de précision qu'il atteint la solstice d'hiver parfaitement à 5h12 le 21 décembre et puis se dirigeait vers le printemps. T'as compris ça? Où était Dieu quand le président de la République n'a pas été tiré dessus pendant des centaines d'apparitions publiques? en 2012. Où était le Dieu de justice quand les fermes françaises ont produit des millions de tonnes de maïs et de soja et d'autres grains, suffisamment pour vendre des milliards en valeur d'euros aux autres nations? Où était le Dieu de justice? Où était Dieu quand aucun complot terroriste en 2012 n'a abattu aucun bâtiment français ou entreprise cette année? Où était Dieu quand le soleil a maintenu sa chaleur et son attraction gravitationnelle précisément suffisante pour que nous n'avons pas été incinérés ou congelés? Où était Dieu, le Dieu de justice, qui a refusé de congeler ou incinérer les gens qui ne méritent que sa justice? Où était Dieu quand 65 millions de Français buvaient de l'eau dans des maisons et des restaurants sans tomber malades? Où était le Dieu de justice quand aucun nouveau catastrophe balayait un tiers des citoyens français? Où était le Dieu de justice quand les Français conduisaient des milliards de kilomètres en 2012 sans accident? Où était Dieu quand plus que 800 000 bébés sont nés en bonne santé en France? Et ça pourrait continuer, n'est-ce pas? Oui, tu dis, mais il y avait des bébés qui ne sont pas nés en bonne santé. Oui, minorité. Oui, il y avait des gens qui sont tombés malades et qui sont morts. Oui, minoritaire. Et ce qui est mérité est même pas qu'il y ait une minorité. Donc ça, c'est ce que je voudrais que nous considérions quand je mets le verset ici. En 2012, mon âme bénit l'Éternel et ses bienfaits. En 2012, Dieu nous a bénis. Et si vous êtes, si c'était capable pour que vous commenciez à écrire, une liste de toutes les bénédictions en 2012, il n'y aura pas assez de stylos, pas assez de papier pour que vous écriviez. Et pourtant, vous aurez du mal à trouver un par mois, comme j'ai essayé de faire hier soir. Quel manque de reconnaissance et de gratitude, parce que je mérite rien que la destruction et la mort. Donc, en réponse à cette question, je voudrais vous donner quatre choses qui viennent de la parole de Dieu. Où était Dieu en 2012, en France, quand, par notre arrogance et notre rébellion et notre cherche d'être dépendant de Dieu, Dieu quand même a retenu, a gardé, n'a pas donné la justice méritée. Je vais vous donner quatre versets. Donc, la première réponse, Dieu régnait en 2012 de son trône pour faire sa volonté souveraine. Psaume 115, 3, notre Dieu est dans les cieux. Et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 130, que je n'ai pas sur mes notes, 5, verset 6, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Croyez-vous cela? Que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes, Dieu fait ce qu'il veut. Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, dit l'Éternel, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et puis je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. J'exécuterai toute ma volonté. C'est Dieu qui dit ceci. Ce que Dieu est en train de dire, c'est trois choses. Dieu fait ce qu'il veut et ne permet pas ce qu'il ne veut pas. Ok? Dieu fait ce qu'il veut et il ne permet pas ce qu'il ne veut pas. Deuxième, Dieu se laisse faire ce qu'il ne veut pas arrêter. Dieu se laisse faire des choses mauvaises parfois. Et il décide de ne pas arrêter. Pensez à beaucoup de tragédies. Est-ce que Dieu était capable d'intervenir pour que les balles de ce fusillade n'aient pas touché les petits? Il aurait pu. Il n'a pas fait. Et Dieu, troisièmement, n'arrête pas ce qu'il veut permettre de se passer. Donc, ce qu'il permet, il n'arrête pas. En tant que chrétien, plus que nous connaissons les voies du Seigneur, et nous sommes émerveillés par sa bonté et par sa gloire et par sa sainteté, plus que nous sommes émerveillés et croyants du fait que même je ne comprends pas du tout, même je n'ai pas une réponse à donner à cette mère qui pleure amèrement pour son enfant qui ne sera jamais plus dans ses bras. Rien à dire, nous savons, n'est-ce pas, que Dieu ne fait que ce qui est bon. Dieu a déversé en 2012 sa bonté sur les Français et sur le monde, partout. Première raison, pourquoi Dieu? Où est la justice de Dieu en 2012 malgré le manque de mérite? C'est parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et pour une raison qui nous dépasse, il veut faire ce qu'il a permis. Un verset dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Oh, comme nous avons besoin de saisir cette vérité. Dieu opère toutes choses, aucune exclusion. Deuxième, sur les quatre, où est-ce que Dieu, en 2012, quand toutes ces bonnes choses sont passées aux Français, à chacun de nous, assis ici, non-Français même, où est-ce que le Dieu de justice, quand Dieu nous a déversé de ses bénédictions, où était sa justice? Deuxième réponse, Dieu régnait en 2012 de son trône pour empêcher beaucoup de péchés et mal qui sont dans le monde. Par exemple, en Genèse chapitre 20, verset 6, Dieu disait à Abimelech, vous savez qui c'est Abimelech? Abimelech, c'était le roi des Philistins du pays où Abraham est entré avec sa belle femme, ou sa femme belle, je devrais dire. Pas sa belle femme, mais sa femme belle. Et qu'il avait peur que cet roi qui avait le droit de faire n'importe quoi risquait de prendre sa femme pour être sa femme à lui. Et Dieu dit dans une vision à Abimelech même, c'est moi, Abimelech, qui vous a empêché de pécher contre moi. Par conséquent, je ne vous ai pas permis de la toucher. L'apôtre Paul parle d'une époque très mystérieuse dans le Nouveau Testament, quand il dit, je vais le lire assez lentement, suivez sur le tableau, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Visualisez cet homme de péché qui va vaincre la religion, qui va vaincre les politiques, qui va devenir le grand souverain dans le temple de Dieu. Et pourtant, il est l'homme de péché, le antichrist à fond. Et qui va se proclamer lui-même Dieu. Verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore avec vous ? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse que en son temps. » Si Dieu avait retenu la méchanceté totalement, il n'aurait pas été même 24 heures avant que l'homme de péché, Satan lui-même, prendrait le monde entre ses mains et le ferait de tout ce qu'il voulait. Mais il n'a jamais pu faire ça. Satan n'a jamais pu faire rien que ce soit, à moins que Dieu lui donne la permission, parce que ça s'accorde avec la volonté de Dieu pour accomplir son plan pour les âges, pour vous et moi ici aujourd'hui. C'est quelque chose absolument merveilleux. En 2012, quand Dieu faisait beaucoup de bien à nous, ici en France, Dieu était en train de régner pour faire sa volonté. Il n'a pas voulu encore juger le péché au fond. Dieu a voulu empêcher encore beaucoup d'autres péchés, bien qu'il permet d'autres. Dieu est toujours en train de restreindre. Troisièmement, où était Dieu en 2012 quand toutes ces bonnes choses se sont passées en France? Dieu était en train, en 2012, de régner de son trône pour donner un témoignage de sa bonté et de sa présence. Il y a quelques mois, nous avons étudié ce chapitre 14 de Actes des Apôtres. Et quand Paul et Barnabas étaient parmi les païens qui voulaient les couronner comme un Jupiter et Saturne, des dieux païens, mythologiques, il dit, non, vous n'avez pas compris comment ça se fait que cet homme marche. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de bien ou que nous sommes des extraterrestres. Non, Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien à nous, dépensant du ciel, les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, en vous remplissant vos cœurs de joie. Où était Dieu en 2012 en France, quand il a permis que la France soit un des plus riches pays du monde, capable de prendre le panier du pain de toute l'Europe et d'envoyer de la nourriture par des tons, des centaines de milliers de tons, à gauche et à droite? Où est le Dieu de justice en tout cela? Notre complexité, notre perplexité plutôt, devrait être, non, comment est-ce qu'un Dieu peut permettre le mal? Mais comment est-ce qu'un Dieu de justice peut ne pas nous faire mal à tous, parce qu'on ne mérite que son jugement. Psaume chapitre 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Ça fait peur, chers amis, parce que les Français voient de leurs propres yeux la gloire de Dieu tous les jours. Ils sont incapables de ne pas voir le soleil quand il brille. La pluie quand il pleut, on a eu beaucoup en décembre. De reconnaître qu'une une puissance, mais ils font de leur mieux, pour la plupart, pas simplement des Français, des Américains et tous les autres, de pousser Dieu à l'écart, de créer une invention de la création du monde, etc., afin de délibérément ne pas se prosterner devant le Créateur du soleil et de tout ce qui existe. Mais les cieux racontent la gloire de Dieu, ils existent pour ça. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et donc, Paul le dit, l'apôtre, en Romains chapitre 1er, « Depuis la création du monde, ce qu'on ne peut pas voir de lui, parce que Dieu est esprit, n'est-ce pas, il est invisible, ce qu'on ne peut pas voir de lui, c'est-à-dire sa puissance éternelle, sa divinité, ça ne se voit pas, mais ça se voit clairement quand même. Étant considéré où? Dans ses ouvrages. Où sont ses ouvrages? Regardez par la fenêtre. On voit quelque chose du voisin de mon voisin. Mais si c'était en été, il y aura plein de choses qui sont la manifestation de la gloire de Dieu. On ne peut pas ouvrir les yeux le matin sans avoir crié dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre intelligence, la gloire de Dieu. Et nous devrions être des adorateurs chaque matin et chaque moment. Donc, parce qu'ils refusent, ils sont sans excuse, inexcusables. Lisons. Et quatrièmement, où était Dieu en 2012 quand les Français ont été bénis avec beaucoup de bénédictions, quand nous ici ont été bénis de beaucoup? Où était la Dieu de justice? Dieu régnait de son trône pour appeler le monde à la repentance. Romains chapitre 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Point d'interrogation, c'est une question. Méprises-tu les richesses de sa bonté, les richesses de sa patience, les richesses de sa longanimité? Ne soyez-vous pas reconnaissant de la bonté de Dieu qui existe pour que tu sois poussé, presque forcé, à la repentance? Qu'est-ce que ça veut dire, repentance? Changement du cœur, suivi par un changement de vie. Job reconnaissait cela en chapitre 33, c'est pas Job, c'est Élihu, qui reprochait les amis de Job, et Job aussi, pour sa vision myope. Et il dit, voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois, dans cette traduction, certaines traductions, que Dieu fait souvent, avec l'homme. Il avait arrêté une maladie, il avait parlé de cela dans les versets qui précèdent, il avait permis qu'il ne soit pas touché si fortement, il soit guéri de certaines choses, pour que, une fois, deux fois, pour que l'homme soit ramené dans son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Quatre raisons pour lesquelles Dieu n'a pas exercé sa justice à chacun de nous qui sont ici. Et j'espère que j'ai mis le verset ici de nouveau. Je ne l'ai pas fait, mais le verset que je l'avais mis sur le tableau était Psaume 103, verset 2. « Ô mon âme, Bénis l'Éternel et n'oublie pas aucun de ses bienfaits. Tournez à ce verset juste un instant, s'il vous plaît. Psaume, dans vos Bibles. Je vous fais travailler. Et tu as dans le petit maintenant, parce que les psaumes sont derrière ça. Psaume chapitre 103. C'est un verset, un passage à lire pour mettre tout en perspective. Quand nos émotions ne nous montrent que des choses noires, nos émotions sont des merveilleux serviteurs, mais des maîtres affreux. Nos émotions n'ont jamais été données pour interpréter la vie, mais pour apprécier la bonne interprétation de la vie. Mon âme, verset premier, bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et puis verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Demain soir, lundi soir, sera le 31, vous êtes tous invités de venir pour la veille de Nouvel An. Et je voudrais que vous faites un petit devoir en avance. Prenez quelque temps en solitude, à part, avec toi, avec le Seigneur, et réfléchir sur votre vie. La tendance, si vous n'êtes pas en train de vous discipliner, de voir d'une manière réaliste, c'est de ne voir que des choses qui ne vous plaisaient pas. Écoutez, ce que je constate, même dans certaines familles, les petits enfants qui ne sont jamais disciplinés, qui ne sont jamais dit, il ne faut pas toucher ceci, ils sont nés pour réaliser leur désir instantané. Et si jamais il y a un obstacle, ils font la seule chose qu'ils savent faire, crier. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Plus qu'ils sont grands, plus qu'ils sont capables de détruire. Ils se mettent en colère. Une colère qui est motivée par un désir. Je dois avoir, j'ai le droit d'avoir ce que je veux, maintenant. Et normalement, notre colère arrive parce que nous refusons de croire que Dieu sait ce qui est bien et Dieu restreint nos désirs parce qu'il veut changer nos désirs destructifs à un désir satisfaisant, vraiment satisfaisant. En fin de compte, nous cherchons à être satisfaits. Je vais montrer ça demain soir, mais aussi ce matin. J'espère qu'en 2013, vous pouvez prier quelque chose, j'ai utilisé les mots P-O-U-R, P-O-U-R, un acronyme, pour oublier 4 versets, pour avant de prier, pour que le Seigneur puisse rééduquer nos réflexions sur lui. Le psalmiste prie en psaume 119, 36, « Penche mon cœur » ou « incline » dans certaines versions, « incliné, penche mon cœur vers tes préceptes plutôt que quoi ?»« À ma convoitise. » Pencher veut dire dans la direction. Je suis naturellement penché comme ça. Ma volonté, mes désirs, mes plaisirs. Mais au Seigneur, ça c'est ma tendance naturelle. Mais viens vers moi avec tes inclinaisons surnaturelles et penche-moi dans l'autre sens. Pour que je ne veux que tes préceptes. Et puis une deuxième chose à prier. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Plusieurs choses dans ce verset. La parole de Dieu est remplie des merveilles. Ce livre est rempli de merveilles. Mais invisible à un cœur que le Seigneur n'a pas ouvert pour voir. Ouvre mes yeux pour que je contemple. Oui, tu peux apprendre la théologie, tu peux comprendre la géographie, tu peux apprendre même le sens théologique, mais de pouvoir apprécier pour que ça change vos désirs. Ah, pour que ça change vos plaisirs. Ça, c'est autre chose. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles. Je dois vouloir cela, pour prier ça. Mais Dieu doit le faire et il le fera. Troisième verset, unis mon cœur pour craindre ton nom. N'aie pas peur de ce mot craindre. La crainte de l'Éternel, c'est un peu comme si vous êtes dans un orage avec beaucoup de tonnerre et etc. Et vous n'avez aucun peur parce que vous savez que vous êtes sain et sauf. Une joie tremblante peut-être, la crainte de Dieu, la joie de savoir que je suis entre les mains de Dieu malgré tout ce qui se passe autour de moi et que Dieu va me protéger et me garder et de m'amener jusqu'au ciel avec lui. Uni. Pourquoi uni? Parce que mes pensées sont fragmentées. Je demande le Seigneur de le mettre tous ensemble pour que je sois uni, pour craindre son nom. Et dernièrement, rassasie-nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Satisfait. Tout le monde cherche satisfaction. Tout le monde cherche être satisfait. Vous faites ce que vous faites pour être satisfait. On mange un bonbon parce que ça semble satisfaire avec le sucre. Quelque chose en nous, mais hélas, c'est superficiel et c'est passagère. Et les satisfactions promises par le monde et promises par Satan ne sont que dévastatrices et destructives, qui donnent un petit flash de plaisir et puis éphémère et superficiel et artificiel. Dieu dit, je veux que tu sois satisfait dans vos désirs. Il n'y a qu'une chose qui peut satisfaire entièrement tes désirs. Et ça, c'est Dieu. Tu étais créé pour être satisfait en Dieu. C'est un peu comme quelqu'un a dit, un oiseau est créé pour respirer de l'air. Si il cherche à respirer de l'eau, ça ne va pas. Un poisson est créé pour respirer de l'eau. S'il cherche à sortir pour respirer de l'air dans un arbre, ça ne va pas. Un être humain est créé pour respirer Dieu. S'il respire autre chose, ça ne va pas. Et ma prière, c'est que cette année, en 2012, que nous prenions du temps tous les jours, 15 minutes, 10 minutes, une demi-heure, pour réfléchir sur les réalités de la parole de Dieu, pour laisser Dieu nous changer, nous satisfaire avec lui-même.